Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraougo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. Je salue Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Valdo Simo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa. Bonsoir Valdo.
Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amdine Si est à Dakar au Sénégal. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc d'ici là, on essaiera de joindre Élisée Mpakine qui pourrait nous revenir ce soir. Vous le savez, ou encore vous le découvrez, Mouad Hadji n'est plus le secrétaire général de la CAF. Le Marocain a démissionné ce lundi 2 mars de son poste. Il avait succédé le 11 avril 2019 à l'Égyptien Amr Fahmy et aura passé donc moins d'un an au sein de l'instance africaine de football. Alors Amine, on a le communiqué de la CAF qui est tombé. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les raisons de la démission de Mouad Hadji?
Pour revenir au communiqué, vous avez pu remarquer qu'il est très consensuel et que c'est Mouad Hadji qui a demandé à quitter ses fonctions au sein de la CAF, invoquant des raisons personnelles. Il faut juste rappeler qu'il était arrivé en tant que coordinateur au sein de la Confédération africaine de football avant de succéder à Amr Fahmy au mois de mars dernier. Donc en moins d'une année, il aura vécu tous les soubresauts de cette Confédération africaine de football, à savoir l'affaire Rades, l'état des lieux par rapport au scandale lié aux finances de la CAF, la démission du secrétaire général précédent ou le limogeage du secrétaire général précédent a été suivi par également le débarquement du directeur financier égyptien Chréri. On a eu donc droit à l'arrivée de Fatma Samoura, à l'audit des finances de la CAF et donc à cette situation qui a débouché sur les révélations que vous connaissez tous concernant la situation financière de la Confédération africaine de football. Donc aujourd'hui, il y avait véritablement un problème de gouvernance. Est-ce qu'on peut estimer que le secrétaire général de la CAF, Mouad Hadji, n'était pas d'accord avec certaines orientations du président de la CAF sur le plan de la gouvernance? On n'en sait rien. Tout ce qu'on peut dire, tout simplement, c'est que ce dernier sera donc le deuxième secrétaire général d'Ahmed Ahmed, qu'on est en train de battre tous les records en termes de fonctionnaires, en termes d'élus ou en termes de personnalités qui ont été placées à certains postes clés, qui n'ont pu tenir le coup, qui ont démissionné. Donc aujourd'hui, on se trouve devant une confédération africaine qui va devoir nommer rapidement un secrétaire général suite à une réunion du comité d'urgence et on verra qui c'est qui conduira les réformes. Vous vous rappelez que le comité exécutif de Doha, il y a une quinzaine de jours, avait annoncé une nouvelle feuille de route, le fameux projet Transforme CAF, qui devait donner un élan de modernité et de rigueur à la Confédération africaine de football. Ce sera mené à partir de 2020, mais sans Mouad Hadji, qui a préféré rentrer au Maroc pour des raisons personnelles.
Alors, Jules, Amine a évoqué tout à l'heure les différents soubresauts qui ont secoué l'instance africaine du football ces derniers temps, avec la mort récemment également de l'ancien secrétaire général Amr Fahmy, l'Égyptien. Cette fois-ci, c'est le Marocain Mouad Hadji qui jette l'éponge. Sans doute, le communiqué n'évoque pas les raisons pour lesquelles il s'en va, mais quoi qu'on dise, il y a problème.
Oui, il y a fortement problème. Et Amine a parlé d'ailleurs de problèmes de gouvernance. Et ça, il faut le retenir. Vous savez, le changement de direction à la tête de la CAF a été très mal préparé. C'était vraiment dans un contexte chaotique, un contexte conflictuel, de telle sorte que l'objectif était un peu plus d'enlever et le dinosaure qui était à la tête de la Confédération plutôt que de constituer une équipe conséquente pour amener la CAF à des sommets supérieurs. Donc je crois que c'est ça que nous sommes en train de payer actuellement. Et ces réajustements, il faut s'y habituer déjà, mais l'essentiel c'est que la CAF tienne le cap et que les réformes qu'elle veut initier soient des réformes acceptées et en même temps soutenues par ceux qui seront, ne serait-ce que provisoirement, à la tête de la direction donc de cet organisme qui est très important pour les Africains.
Vous suivez Sporama sur VOA Afrique, VOA Afrique dont la section francophone fête ses 60 ans cette semaine. On est bien sûr sur la chaîne de VOA Afrique et nous revenons tout de suite. Le continent a vibré ce week-end avec les matchs allés des quarts de finale des compétitions interclubs. Et nous commençons avec la Ligue des Champions. Le Raja de Casablanca a pris une option considérable, on va dire, en vue de la qualification en demi-finale. Vendredi en soirée, donc, au complexe Mohamed 5, 2-0 pour les Verts. Alors, Amine, je vous reprends. Deux coups de tête de Ben Malango et de Badr Banoun ont permis au Raja de prendre cette avance sur le tout-puissant Mazembe.
Et on aura vu une équipe du Raja conquérante avec un visage séduisant. Ils ont pris à la gorge l'équipe du tout-puissant Mazembe dès la première minute de jeu. Et on s'est retrouvé face à une équipe du tout-puissant Mazembe totalement méconnaissable, à telle enseigne que si on devait se référer aux statistiques du match, il n'y a pas eu un seul tir cadré de la part des Corbeaux. Donc l'équipe du Raja s'est créée les meilleures occasions. Elle a dominé le tempo du match. Elle a suggéré ses temps faibles et surtout profité d'une des spécialités de la maison, les coups de pied arrêtés pour marquer à deux reprises. Ben Malango a effectué un travail de sap contre ses ex-coéquipiers. Il a eu l'élégance de ne pas fêter le but qu'il a inscrit d'une reprise de la tête dès la sixième minute de jeu. Il a créé des brèches, il a trouvé des solutions, il a su se proposer et puis il était bien soutenu au milieu de terrain par Rahimi qui était le deuxième attaquant de cette équipe du Raja de Casablanca et sur Fabila Hafidi qui est revenu au bon moment. La deuxième mi-temps avec l'entrée du maestro Metouali, un des maîtres à jouer de cette équipe du Raja, le Raja a connu un deuxième souffle et a pu inscrire un deuxième but et surtout on était à deux doigts en toute fin de rencontre de voir le Raja graver la marque une troisième fois. C'est une marge de sécurité assez intéressante pour le Raja, mais il va falloir maintenant se réveiller ou se rendre compte aussi que cette équipe du TP Mazembe est très dangereuse chez elle, que les premières minutes de la rencontre, c'est notamment le premier quart d'heure à Lubumbashi, seront certainement très compliquées. Si le Raja arrive à gérer les moments les plus compliqués de cette rencontre et notamment l'entame du match, il y a de fortes chances de voir les Casablancais, qui sont les principaux outsiders dans cette compétition, se retrouver dans le dernier carré de la compétition, alors que personne ne pariait le moindre centime pour les voir à ce niveau de la compétition, eux qui retrouvent les lustres des phases de groupe et des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs champions, de la Ligue des champions, pour la première fois depuis l'année 2005.
En face, le coach des Corbeaux de Lubumbashi dit avoir bien fait jouer son équipe qui n'a pas été efficace. On écoute Pamphile Miayou.
Ils ont montré pas mal de bonnes choses. Nous, on a été en dessous. Voilà ce qui a fait la différence. Ils ont marqué des buts, ils ont gagné. Bravo à eux. Je crois que rien n'est encore fini. Il y a encore le match retour qui nous attend. Donc, on va essayer de bien préparer ces matchs-là. C'est vrai, ça ne sera pas facile. Avec l'avance déjà que l'adversaire a prise, nous allons essayer de bien préparer ce match-là pour pousser et faire la différence. Avoir une victoire qualificative, ce qui n'est pas impossible dans le football. Ils ont gagné deux buts à zéro, c'est aussi possible pour nous de gagner à la maison.
Pamphile Miayou, coach du tout-puissant Mazembe. Alors, Valdo, le TP Mazembe s'était montré jusqu'ici intraitable en Ligue des Champions cette saison. Ce n'est pas fini, nous dit le coach, mais déjà, qu'est-ce qui n'a pas marché pour ce match aller et qu'il faille corriger au match retour à domicile?
Il faut tout corriger. Amine l'a dit tout à l'heure que c'était une équipe de Mazembe méconnaissable, alors qu'au match Raja sera aussi méconnaissable, ce qui Mazembe va bel et bien prendre sa revanche. Vous l'aurez certainement remarqué que sur les quatre rencontres, les clubs qui ont reçu se sont imposés sur leurs adversaires. Donc le match retour, c'est le match des équipes qui ont fini en tête de leur phase de groupe et qui auront certainement fort à faire, notamment les équipes qui sont en dernière match. Mais qui a déjà commencé à préparer son match de par son président, l'équipe Moïse Katumbi, qui a lancé le message, qui reste sur un slogan de Corbeau, hein, l'impossible n'est pas Mazembe.
Non, la ligne est difficile avec Valdo, on va essayer de le reprendre. Alors, Amdine, les Congolais se retrouvent avec deux buts à remonter. C'est le football, tout est possible, comme le disait bien sûr leur coach Pamphile Miayou. Sauf qu'en face, le Raja est aussi inconscient de cela. Et ça ne sera pas facile pour le match retour à Lubumbashi.
Tout à fait, Yacouba, vous avez raison de le dire. 2-0, ce n'est pas rien pour une équipe comme le Raja, saison des Marocains. Les Marocains qui ont quand même le vent en poupe, c'est ainsi. On a vu également la performance de Wydad. Mais comme on le dit, on est en football, rien n'est impossible. Et puis le tout puissant Mazembe a la tâche de faire un peu redorer le blason des clubs de l'Afrique noire, puisque dans cette compétition, les clubs de l'Afrique noire ne sont pas tellement bien représentés. Mais il faudra quand même sortir le grand jeu pour pouvoir renverser la tendance. Mais comme depuis quelques années, que ce soit en Ligue africaine des champions, que ce soit au niveau de la Coupe de la CAF ou même au niveau de la Ligue européenne des champions, il y a ce qu'on appelle maintenant la remontada. Donc les Kobo vont tenter quand même cette mission quasi impossible, mais comme on dit, à chaque fois, quand il y a vie, il y a espoir, Yacouba.
Merci. Amdinsi, même score, de 2-0 pour l'autre club marocain, le Wydad Athletic Club de Casa, qui s'est imposé à domicile devant l'Étoile du Sahel. Un match aller, ironie du sort, sur le banc du WAC, on retrouve celui qui était coach de l'Étoile il y a à peine un mois, Juan Carlos Garrido, qu'on écoute.
Je pense que cette match doit donner à l'équipe la confiance que c'est besoin et que les joueurs ils besoin pour bien jouer le football. Je pense que cette semaine l'équipe a bien travaillé, cette match l'équipe a bien travaillé. Je pense que ça se doit construire cette confiance individuelle et collective. Aujourd'hui, donner la félicitation à l'équipe pour bien travailler le match. Et il y a, ça c'est la première partie du match, il y a la deuxième partie se doit jouer. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de travail plus pour faire.
Juan Carlos Garrido, coach du WAC. Alors, Amine, il faut le reconnaître, le WAC a su jouer à domicile face à ces Tunisiens-là.
Et surtout, le WAC a connu un chambardement en début de semaine avec l'arrivée de Juan Carlos Garrido et le remerciement de Sébastien de Sabre. L'arrivée à côté de Juan Carlos Garrido d'un adjoint qui est Moussa Ndao, qui est un enfant du Wydad de Casablanca, qui connaît les joueurs et qui a su certainement servir de liaison avec l'entraîneur espagnol. Il faut dire aussi qu'en une semaine, on ne peut pas travailler la stratégie, la tactique, mettre en place les idées de l'entraîneur. Donc c'est plutôt l'aspect moral qui a été certainement privilégié. Et on a vu une équipe du Wydad totalement métamorphosée par rapport aux dernières semaines. Les joueurs qui étaient amorphes en championnat se sont retrouvés en train de conquérir chaque partie du terrain. Ils ont défendu en avançant. Ils ont contrôlé les temps forts et les temps faibles du match. Et surtout, ils ont eu l'avantage de marquer, ou le privilège de marquer très tôt dans la rencontre, de façon à pouvoir mettre sur le reculoir cette équipe tunisienne. Un deuxième but en deuxième mi-temps, et encore une fois de la part de Mohamed Nahiri, qui était un des joueurs proscrits ou bannis depuis quelques semaines pour indiscipline, et qui a été remis en selle par Juan Carlos Garrido, permis au Wydad donc d'avoir une avance conséquente. Il faut dire aussi que Juan Carlos Garrido, qui a drivé ou coaché à 13 reprises l'équipe de l'Étoile du Sahel, notamment pendant la première phase de cette Ligue des Champions, était revanchard. La façon avec laquelle il avait été remercié par les dirigeants tunisiens n'avait pas été du tout appréciée par l'entraîneur espagnol, donc il avait une double motivation, prouver à son nouvel employeur qu'il avait les épaules assez larges pour pouvoir les mener le plus loin possible dans la compétition. Il a un contrat d'objectif avec une possibilité d'augmenter substantiellement ses revenus si l'équipe atteignait une nouvelle fois la finale de la Ligue des Champions. Et puis, le fait de prouver également à ses ex-dirigeants qu'il avait aussi l'étoffe pour conduire l'Étoile le plus loin possible dans la compétition. Tant pis pour les dirigeants tunisiens, puisque la première manche est tombée dans le camp de l'équipe du Wydad de Casablanca. 2-0, c'est un score assez intéressant. Le fait de ne pas avoir concédé de but à domicile est un atout dans ces rencontres couperies. Il va falloir voir maintenant dans quelle mesure cette rencontre retourne sera géré par le Wydad de Casablanca. Il y a de multiples inconnus, notamment le fait de disputer la rencontre à Rabès, loin de l'antre de l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel. Avec quel nombre de spectateurs, puisque vous savez que la situation en Tunisie oblige souvent à avoir des matchs de football avec un quota défini de spectateurs. Et puis, est-ce qu'on ne va pas jouer la rencontre à huis clos, étant donné la situation sanitaire qui commence à prévaloir dans certains pays d'Afrique du Nord, notamment en Algérie et en Tunisie, avec ce virus de corona?
Il y avait aussi un gros choc au Caire entre Al Ahly et les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. À l'arrivée, un doublé du Tunisien Ali Mahloul donc a permis aux Égyptiens de remporter cette manche aller 2-0. Alors, Jules, Mamelodi a fait un parcours sans faute lors de la phase de groupe. On le disait, c'est maintenant que les Sud-Africains doivent être beaucoup plus costauds.
Oui, mais là, on est un degré, disons que l'intensité du jeu et la qualité du jeu ont progressé d'un degré, et donc à ce niveau-là, les petits détails commencent à compter, et nous savons que le match aller est souvent très décisif, et les équipes qui ont une grosse expérience dans la compétition mettent souvent le paquet pour essayer de mettre toutes les chances de leur côté. Donc à 2-0, c'est un score très difficile à remonter, et même si Al Ahly, je crois, a quand même en tête cette expérience face à l'expérience de Tunis, et qu'elle avait battu 2-0, mais qui avait renversé la vapeur en gagnant 3-0 au retour. Mais je crois qu'un homme a averti en vaut deux, et que Al Ahly a pris une option assez sérieuse pour de passage au prochain tour.
Bien évidemment, les Diables Rouges prennent ainsi une nette avance sur leurs adversaires, mais ils doivent aussi toujours se rappeler qu'ils s'étaient inclinés 5-0, on le rappelle, à Pretoria l'an dernier, au même stade de la compétition. C'est pour dire, Amine, ce n'est pas fini.
Ce n'est pas du tout fini. Quand on connaît un peu la solidité de cette équipe de Mamelodi Sundowns, qui a su acquérir de l'expérience au fur et à mesure de ses participations en Ligue des Champions, c'est aussi un tenant du titre ou un ex-tenant du titre. L'équipe a su se montrer lors du premier tour suffisamment intéressante sur le plan du jeu, suffisamment percutante au niveau de sa ligne d'attaque. C'est une équipe qui joue au sol, qui ne balance pas. Et face à une équipe égyptienne souvent sur le reculoir ou souvent fragile en déplacement, on verra si la première mi-temps ne va pas être déterminante en faveur de cette équipe sud-africaine qui pourrait provoquer une remontada. Mais attention, l'équipe de l'Ali qu'on a vue cette semaine n'a rien à voir avec celle qui avait affronté le Mamelodi Sundowns la saison dernière. On a vu que les joueurs égyptiens avaient su prendre le match à bras-le-corps et notamment en seconde mi-temps pour marquer deux buts grâce au Tunisien Ali Mahloul. Et on verra si ce capital expérience, si cet ADN compétitif de l'Ali qui est quand même le recordman de victoires en compétition africaine, ne va pas prévaloir face à la fougue et au savoir-faire des joueurs de Mamelodi Sundowns.
De son côté, le double tenant du titre, l'Espérance de Tunis, s'est incliné 3-1 au Caire face aux Zamalek. Alors, Valdo, ça fait deux fois de suite que Patrice Carteron, l'entraîneur du Zamalek, prend le dessus sur Moine Chabani. Le double tenant du titre est peut-être émoussé.
On va le dire comme ça, parce que bon, il en a déjà fait, vous le savez, l'épopée Enimba s'est aussi arrêtée après avoir remporté deux Ligues des Champions. Il en est de même pour les tout puissants de l'Armazembe 2009-2010, et ça sera peut-être le cas de l'Espérance Sportive de Tunis qui pourra bien sûr se faire donner le pion avec Patrice Carteron à trouver cette formule, battre en Supercoupe le double tenant du titre et manche aller de ses quarts de finale, ce qui veut dire que Patrice Carteron a quelque chose à jouer et certainement, je vois les Zamalek faire mieux face à cette formation qui sera aussi très, très, très en forme pour pouvoir rendre la monnaie de la pièce parce que ça sera bien trop si elles arrivaient à perdre pour la troisième fois consécutive. Donc, je pense bien qu'à domicile, l'Espérance Sportive va chercher à faire quelque chose pour tenter de répondre, bien sûr, le dessus sur son adversaire, mais ça s'annonce très compliqué, très complexe quand on sait que Patrice Carteron est venu pour jouer également une carte assez particulière sur les Zamalek qui est en train de chercher de prendre pratiquement l'ascendant sur cette formation de l'Espérance Sportive de Tunis. Donc ça va déjà très mal, très mal. Donc on attendait à voir justement si l'Espérance Sportive de Tunis aura de quoi prendre l'ascendant et confirmer qu'il a fini en tête de son groupe.
Quart de finale aller également en Coupe de la Confédération et le FC Pyramide a fait l'opération la plus belle en allant s'imposer sur le terrain de Zanaco au 3-0. Alors Jules, là les carottes sont presque cuites quand même pour les ambiants de Zanaco.
Rien à dire, les carottes sont faites, ça nous rappelle un peu le match Bayern et Chelsea en Ligue des Champions européennes, mais vous prenez 3-0 sur votre terrain, je crois que tout ce qu'il faut faire au retour, c'est refaire, disons que préparer l'avenir en sortant par la bonne porte. Je crois que Zanaco a perdu pratiquement ses chances de continuer cette compétition.
Oroya a réussi à arracher l'égalisation 1-1 sur le terrain d'Enimba. Alors, Amdine, c'est un but précieux pour les Guinéens avant le match retour à Conakry.
Oui, Yacouba, Oroya a négocié quand ce déplacement périlleux, parce que ramener un nul au stadium d'Enimba du Nigeria, il fallait le faire et les Guinéens l'ont fait. Ils ont sorti le grand jeu parce qu'ils étaient menés dès la 19e minute, mais il faut dire que l'entraîneur, qui n'est autre que le technicien sénégalais Lavingaï, a fait quand même un très bon coaching, puisqu'il a fait rentrer Boniface Kaba à la place de votre compatriote le Burkinabé Aristis Banzé. Ce dernier a réussi quand même à marquer le but égalisateur. C'est lui qui a remis les pendules à l'heure et qui a permis aux Guinéens de ramener un excellent résultat, puisque non seulement un nul, c'est un bon résultat quand une équipe se déplace, mais un nul avec un but, c'est autre chose. Donc, le Oréa qui réussit jusqu'à présent un bon parcours, qui n'a pas encore concédé de défaite, est bien parti pour décrocher la qualification, mais il faut bien négocier la seconde manche, puisque...